Radio B. Résonance. Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous. Résonance, un grand amphithéâtre à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Aujourd'hui, je vous propose de faire un grand voyage, un parcours sur près de 2 siècles, en tout cas une première partie de voyage, afin de découvrir, tout au long de notre émission, les divers usages de l'art dans les lieux institutionnels. Tout d'abord l'asile, puis l'hôpital psychiatrique, et en fin de parcours, le secteur du médico-social. Un voyage historique qui va nous permettre d'aller à la rencontre de praticiens qui ont conçu et mis en œuvre des pratiques soignantes au moyen de l'art. Un parcours dans ce premier volet qui prendra source au XVIIIe siècle et qui nous conduira lors d'une prochaine émission jusqu'à notre aujourd'hui. Alors pour nous guider dans ce voyage, un observateur avisé des pratiques artistiques dans le champ de la santé et du médico-social, Gérard Bonnefond. Éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, il a également assuré des responsabilités nationales dans les secteurs du social et de l'éducation. Et il a dirigé une école de travail social. Il est enfin diplômé de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est l'auteur aussi, en tant qu'observateur justement avisé, de différents ouvrages sur ce sujet. On peut citer « Art et liens sociaux »,« Handicap et cinéma »,« Penser l'éducation populaire, humanisme et démocratie », des ouvrages parus aux éditions Chroniques sociales. Bonjour Gérard Bonnefond et bienvenue dans cette émission.
Bonjour.
Nous allons essayer ensemble, à partir de votre ouvrage « Pratiques artistiques et thérapies par l'art, de l'asile au médico-social », paru donc aux éditions des Chroniques sociales, de comprendre les élans, les réflexions, les recherches, les tâtonnements aussi de praticiens, plus tard aussi d'artistes qui se sont aventurés dans ce domaine. Comment peut-être l'idée d'imaginer un parcours historique de toutes ces pratiques dans ce secteur, petit à petit, s'est fait jour pour vous, Gérard Bonnefond?
Alors l'histoire, plutôt, cet ouvrage se situe dans la continuité d'art et bien social, où je parlais des pratiques artistiques dans le médico-social, et en particulier d'associations qui exerçaient dans le domaine de la musique, du théâtre. Et je me suis engagé dans ce travail d'une manière incidente. Pas tout à fait, mais quand même incidente. Oui. C'est quand Claude Wajman, un ami, m'a sollicité pour écrire un article sur handicap et culture pour la revue Psychologie Clinique. Et puis, j'ai commencé à regarder. Oui. Et puis, je voulais absolument parler du théâtre à Charenton, c'est-à-dire du théâtre, des pratiques théâtrales initiées par le marquis de Sade, et le directeur, M. de Coulmiers, ancien conventionnel, à la maison de santé de Charenton. Voilà, c'est par, par un article que j'ai commencé, puis après j'ai trouvé ça fort intéressant, et puis j'ai regardé ce qui se passait avant, ce qui se passait après, et c'est comme ça que s'est construit l'ouvrage, que j'ai très rapidement divisé en deux parties.
C'est ça.
ce qui relève, on va dire, de l'asile, de la psychiatrie, et d'une manière générique, de la santé mentale. Et dans un continuum, les pratiques artistiques et culturelles dans le secteur du médico-social qui prend sa forme dans l'après-guerre et autour des années 1950.
Voilà, que nous aurons l'occasion d'aborder dans un deuxième volet, mais voilà, c'est vraiment un parcours assez large et vraiment, je trouve, important, parce qu'on n'a peut-être pas tant d'ouvrages que ça qui puissent nous permettre de poser comme ceci un regard un petit peu global sur toute cette évolution et ces prises de conscience dans ce domaine-là.
Alors, il faut citer un ouvrage qui pour moi est un ouvrage de référence, oui. C'est l'ouvrage de Claude Quettel sur l'histoire de la psychiatrie, qui est l'ouvrage de référence que j'ai suivi. Il parle un peu des pratiques culturelles et artistiques, mais pas d'une manière systématique, parce que c'est pas
c'est
l'objet
ça.
Direct
parce que
de
c'est
son
pas
travail,
l'objet.
Mais c'est un remarquable ouvrage historique. Et bien sûr, il y a les travaux également de Gladys Swann et de Marcel Gaucher en la matière. Mmh. Et puis, bien sûr, il est difficile d'oublier Michel Foucault.
C'est certain.
En la matière. Mais en ce qui me concerne, ce sont surtout les travaux de Quettel et de Marcel Gaucher que j'ai lus. Bien sûr, j'ai lu également Foucault. Mais c'est sur les deux premiers que je me suis appuyé pour la réflexion. Et surtout, c'est un gros travail en bibliothèque en particulier.
C'est ça.
J'ai travaillé à l'Interuniversitaire de médecine à Paris, au Centre d'histoire de la médecine, toujours au même endroit, pour lire les documents patiemment de la Révolution française. À nos jours, à très peu près.
Oui, c'est vraiment un gros travail de recherche. Et puis, dans la postface aussi, il y a vous indiquez aussi à un moment donné que c'est un ouvrage aussi qui aurait pour objet de préciser, bien sûr, les usages de l'art, mais aussi également peut-être d'appeler à la prudence ou à la nuance, à la réflexion en tout cas, lorsque l'on met en place des dispositifs dans les contextes soignants, éducatifs et rééducatifs, en tout cas au niveau de l'art.
Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que dès le début de l'asile, la prégnance de la maladie mentale, la présence des dispositifs de soins influe sur les pratiques artistiques. On est dans une situation paradoxale, c'est-à-dire on propose des activités à caractère ordinaire, mais dans un lieu soignant.
C'est ça.
Donc ça, il y a une interaction, qu'on le veuille ou non, elle existe. Deux courants se dégagent très vite. Un premier qui relève, qui pense que la pratique artistique doit se développer en tant que telle, d'où l'existence, par exemple, des chorales, des fanfares, des classes de musique. Et c'est la musique qui arrive en premier, et de loin.
Et de loin, oui.
Des pratiques théâtrales, comme on trouve bien sûr à la Maison Nationale de Charenton, mais on en trouve aussi à Ville-Évrard et dans d'autres établissements. Bon, là, immédiatement, c'est l'activité qui a des fonctions, on va dire, d'une manière indirecte, qui a une fonction thérapeutique, sachant que c'est toujours une minorité de malades.
Oui.
Ça concerne une minorité. Ensuite, vous avez, dans un deuxième temps, les thérapies par l'art, mais qui sont initiées, on va dire, dans les conceptions, même si toutes ces activités sont pensées dans une dimension thérapeutique. C'est la clé. Les thérapies par l'art arrivent beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard.
Mais avec une double dimension, il y a les thérapies par l'art, c'est les psychothérapies par l'art qui émergent à partir de la découverte freudienne. On s'appuie sur Freud. Et à cela, je pense, il faut lire La Gradiva de Janssen, de Freud, ou son ouvrage sur Léonard de Vinci, ou à partir du roman et au partir de la lecture d'une peinture de Léonard de Vinci, il met en évidence que des histoires se racontent, qu'il y a des interactions et que l'on peut traiter les personnes, souvent qui sont en difficulté à l'expression orale, par d'autres moyens qui sont souvent, mais pas seulement, le dessin, la peinture, mais ça peut être la danse, ça peut être le théâtre sous diverses formes, des moyens de traitement pour aller mieux. Ça, c'est le premier volet de thérapie par l'art, de psychothérapie par l'art, plus précisément. Puis, il y a une diversité de thérapies par l'art qui sont faites jour, qui ont des dimensions de socialisation, des dimensions de stimulation de la créativité pour être bien. Voilà, ouais, des fonctions rééducatives. Voilà, à large trait, voilà le champ qui prend forme et qui est toujours actuel.
Oui, parce que du coup, on sent bien qu'il y a à la fois cette prise de conscience depuis la nuit des temps, et à cette époque-là, je pense qu'ils étaient aussi dans cette continuité, que finalement, l'homme pense parce qu'il existe, reste que aussi sa pensée, elle doit se dire, se communiquer à d'autres êtres pensants, et donc même si, et vous avez raison de le souligner, c'était peut-être pas encore cette pensée-là qui était là, parce qu'il y avait un autre regard porté sur les aliénés, les gens, les différentes personnes accueillies dans ces établissements, mais ça que quelque part, depuis la nuit des temps, en tout cas, l'art a aussi été utilisé, bien sûr, pour être bien, pour se faire plaisir, mais aussi on s'est rendu compte aussi qu'à des moments donnés, la musique, en l'occurrence, pouvait peut-être apaiser à certains moments donnés, en tout cas modifier des rapports de comportement, voire exhorter aussi également, et que là, du coup, il y a, avec les aliénistes, il y a tout un regard qui se pose par rapport à tout ça.
Vous avez parfaitement raison. C'est la musique, fonction apaisante, ou le théâtre, fonction cathartique. Cela existe depuis l'Antiquité.
Alors si on en vient moi, peut-être... Oui, allez-y Gérard Bonnefond.
Moi, mon travail concerne l'institution, c'est-à-dire l'émergence de l'asile. Alors la question qui est très importante, pourquoi la révolution, c'est qu'il y a vraiment un bouleversement. Un bouleversement très important, et pas seulement dans le domaine de l'aliénisme. Et on voit qu'il y a une concordance, c'est-à-dire l'ancien régime s'effondre, apparaissent des temps nouveaux.
Oui.
Par exemple, Condorcet, en 1791, il publie les 5 mémoires sur l'instruction publique, qui est un ouvrage clé pour l'éducation générale du peuple et la formation continue. Vous avez, par exemple, les premiers établissements institutionnels et publics, parce qu'il en existait des privés, bien entendu, des établissements qui ont été créés en juillet 1791 par la Constituante, où sont regroupés les aveugles et les sourds et muets. Et puis, événement important, et là j'en reviens à l'aliénisme, mais c'est très important, c'est que Pinel, célèbre aliéniste, qui est le concepteur du traitement moral, entreprend de s'adresser à la raison des malades. Hegel dit le plus grand bien du travail de Pinel, c'est-à-dire à la partie saine de la raison. C'est-à-dire, parce qu'on n'est pas toujours en crise quand on est malade, quand on va pas bien, quand on est interné. Il y a de longues périodes où on peut s'adonner à des activités aucun problème. Mais dans le cadre du traitement, Pinel, c'est le dialogue, c'est l'appel à la raison, c'est la rencontre individuelle, ce qui est une véritable révolution. Par ailleurs, à l'initiative de Jean-Baptiste Pussin, qui a travaillé avec Pinel, mais c'est Jean-Baptiste Pussin qui a la cible de Bicêtre l'a mis en œuvre, c'est la libération des chaînes des furieux, c'est-à-dire il y avait une camisole où les bras étaient en contention et ils pouvaient circuler librement. C'est-à-dire, c'est la liberté. Et sur le plan, on va dire, de l'éducation, de la rééducation, autre événement important, Jean-Marc Itard, qui est médecin, assure entre 1800 et 1806 l'éducation, la rééducation de Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage. Que François Truffaut, dans son film L'enfant sauvage, a très très bien mis en scène. C'est un ensemble de... C'est une révolution dans le domaine de l'éducation, de la rééducation et de l'aliénisme et du souci de l'autre. Alors ça prend, effectivement, une forme institutionnelle.
Et là, vraiment, on a, je revois aussi donc ceux qui ont précédé, quelques personnages, même si, bien sûr, on ne pourra pas tout développer les avancées ou les recherches aussi que ces praticiens ont effectuées. Mais je pense à Joseph d'Aquin, par exemple, aussi, donc un petit peu avant Pinel, et Jean-Charles aussi de Zessard, aussi, qui, eux aussi, médecins également, vont également penser que, là aussi, la musique, en tout cas, je pense à Daquin. Alors aujourd'hui, on revoit arriver dans les hôpitaux, et déjà depuis quelques années, mais le concert. Mais lui, déjà, on est, quand il préconise dans son ouvrage La philosophie de la folie, 1791, l'usage de la musique pour traiter les aliénés agités. Et il envisage même la création de salles spectacles dans l'asile.
Tout à fait, c'est le précurseur. Daquin est un grand précurseur et en la matière, plus important que Pinède.
C'est ça, hein ?
Il est tout à fait précurseur de ce qui se pratique, je dirais pas régulièrement dans les hôpitaux à l'heure actuelle, mais Daquin a mis en place, plutôt il s'est aperçu que fonction d'apaisement des grands furieux.
Oui.
Et puis, il y avait une transformation des personnes. De Zessar aussi, on parle.
Oui, de Zessar, on parle également.
Il en parle et il s'aperçoit que là, on commence à mettre en place des protocoles, c'est-à-dire avec un violon et la voix dans la pièce d'à côté, on s'aperçoit que ça a des effets. Alors, on va mettre deux violons, on va rajouter une choriste. Mais on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, donc on recommence. Alors, on oscille entre une technique et puis sur simplement les effets bénéfiques de la mélodie qui apaise la personne.
Oui, donc justement, je reprends une citation que vous avez mise dans votre ouvrage de Jean-Charles de Zessar, et qui dit effectivement, quand il dresse un tableau des effets de la musique, et il nous dit la chose suivante: « Quelques savants à qui j'ai communiqué mon opinion conviennent que les sons modulés et dirigés avec art doivent produire une action réelle et exercer un grand pouvoir dans les maladies dépendantes des affections nerveuses. » Fin de citation.
Bah, je crois qu'il a dit l'essentiel.
Voilà, n'est-ce pas, hein, mais on voit qu'il essaye, en tout cas, peut-être de dégager. Peut-être Daquin essaye des tas de choses, mais peut-être que Jean-Charles de Zessar essaye d'analyser peut-être un peu les choses, d'aller un petit peu plus loin sur comment s'organisent thérapeutiquement les moyens de la musique.
Oui, c'est une approche directement thérapeutique que soutient de Zessar. La musique au chevet du malade, c'est une approche directement thérapeutique qui n'a pas un aspect ludique du tout.
Oui, c'est ça. On est vraiment sur l'axe thérapeutique.
On veut soigner. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des traitements par les sangsues ou par... des traitements, les bords ou autres, les saignées, voilà, c'est ce que
les saignées, oui,
les
tout saignées, à fait.
On trouve où les divers traitements qui se plutôt avec au jet d'eau, par exemple, on dit hydrothérapie, mais c'était beaucoup plus violent et primaire à l'asile naissant. Non, ils trouvent. Alors, on fait tout ça,
oui.
Mais pour certains malades, alors toujours on est dans les minorités. Hein.
C'est ça, c'est très peu, comme vous le disiez tout à l'heure.
C'est très peu. Très peu. Il faut penser que la majorité, là Claude Quettel en parle très bien, on ne guérit pas dans l'Asie du 19e siècle, ou très très peu.
Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup de chroniques. Et puis on peut sortir, il y en a qui sortent, effectivement. Mais l'idée, là je reviens à l'idée de Pinel, qui était une idée révolutionnaire, c'est-à-dire l'activité, que ça, au premier chef le travail, et les activités, on va dire, de temps libre, on dirait aujourd'hui, sont structurantes, ont une fonction soignante.
Oui,
voilà,
c'est ça.
C'est l'idée. C'est l'idée de Pinel et qui s'actualise. Là, en ce qui concerne de Zessar, il y a un aspect directement appliqué de soins. On peut dire que c'est une thérapie par l'art, où on veut modifier le comportement. On n'est pas dans l'analyse. Hein,
c'est ça.
C'est auditif, c'est de la musique réceptive, et on s'aperçoit quand même ce qu'on savait dès l'Antiquité. Hein.
Oui, voilà, c'est ça, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas neuf, ce rapport-là aux arts et à l'influence aussi, notamment des sons et de la musique sur l'individu.
Et le docteur Cabanès, que j'ai lu avec intérêt, où il parle des vieilles médecines du temps passé, parle de l'Antiquité, parle du Moyen-Âge, et puis il parle bien sûr des premiers pas dans l'asile, et il voit bien que la musique a des effets, ça c'est absolument indéniable. Là, en ce qui concerne de Zessar, c'est effectivement l'aspect thérapeutique, auquel une autre dimension apparaît, c'est la musique en tant que, on va dire distraction, je dirais pas occupationnelle, c'est toujours un peu péjoratif quand on dit
oui,
ça, en tant que distraction, parce que toutes ces activités, c'était des Les personnes viennent par adhésion, elles veulent le faire, ça donne du sens à leur journée. C'est pour faire face au vide aussi. Hein.
C'est ça, voilà. Avec
le vide est quand même particulièrement anxiogène, si ce n'est angoissant. Oh, c'est,
bien sûr.
C'est terrible.
Nous venons d'entendre le premier mouvement Allegro du quatuor à cordes numéro 2 en sol majeur, opus 18 de Ludwig van Beethoven, composé donc entre 1799 et 1800, et là interprété par l'excellent quatuor Talisch. Donc vous êtes sur Résonance, dans Résonance, sur Radio B, et aujourd'hui nous évoquons les pratiques artistiques et thérapies par l'art de l'asile au médico-social avec Gérard Bonnefond. Alors Gérard Bonnefond, nous en étions un petit peu dans ce voyage que nous avons entrepris depuis le début de notre émission à évoquer aussi Pinel, qui pense aussi indispensable de mettre en place un nouvel agencement spatio-temporel de l'asile et de l'organisation d'activités au bénéfice des internés, et là où la musique trouve sa place, et voire même aussi on essaye d'imaginer que des pratiques dansantes puissent exister également.
Alors, après les thérapeutiques au chevet des malades, oui, comme Jean-Charles de Zessard les met en place, comme les préconise Joseph d'Aquin, on trouve du côté d'Esquirol toujours ces approches et cette recherche. Alors, Esquirol est nettement moins convaincu que Joseph d'Aquin, que Pinel et que de Zessard. Au fond, il y croit très modérément.
Très modérément.
Il est très hostile au théâtre.
Oui.
Par exemple, il pense que ce qui s'est pratiqué à la Maison nationale de Charenton, c'est pas une bonne idée. Le théâtre, selon le marquis de Sade, ça, non. Alors, il est réservé, mais à la fois intéressé. Alors, ce qu'il fait, c'est pendant les étés, les dimanches des étés entre 1824 et 1825, il sollicite pour des concerts dans la Salpêtrière, des musiciens du Conservatoire de Paris. Alors, il a mis en place un protocole, c'est-à-dire on est dans l'audition musicale et il veut observer.
C'est ça.
Alors, on se demande, quand on lit son texte, si c'est une observation pour voir les effets, c'est-à-dire c'est sa curiosité intellectuelle ou s'il souhaite vraiment qu'il y ait des effets plutôt... les personnes sont vraiment des cas. La musique est utilisée comme moyen d'observation, mais il y a plein d'ambiguïté dans cette histoire.
C'est ça.
Néanmoins, il rassemble 80 femmes, c'est des femmes essentiellement, la salpêtrière, aliénées. Alors, il utilise l'expression « choisi par moi », c'est mes médecins, mes élèves,
c'est ça.
Toujours cette idée d'appropriation.
D'appropriation de la personne.
De la personne. Alors, il invite le Conservatoire de Paris, où il y a des musiciens, à jouer des airs. Alors, des airs sont joués, et puis... il s'aperçoit que toutes ces femmes sont particulièrement attentives. Il cite par exemple que leur physionomie s'animait, les yeux de plusieurs devenaient beaucoup plus brillants, elles restaient tranquilles, et puis des émotions apparaissent, des larmes coulent. Voilà, mais bon, elles demandent que l'on joue des airs qu'elles aiment, alors Esquirol, il dit on se prêta.
C'est
voilà,
ça.
Il dit pas autre chose. On se prêta à cette demande. Mais pour lui, c'est extrêmement secondaire, alors que aujourd'hui, on dirait que c'est très important parce
Absolument.
Qu'il y a une vraie demande de
tout
cette
à
personne.
Fait. Tout à fait.
Alors, il n'est pas convaincu de tout ça. Alors, il se désole de ne pas obtenir de guérison et pas même d'amélioration de l'état mental. Ce qui est quand même très réducteur parce que faire de la musique pendant 2 mois d'été, par exemple, ça fait les dimanches, ça fait 8 séances, même si ça dure 2 heures au total. C'est quand même un peu court pour tirer de telles conclusions.
Et est-ce qu'on sait que...
Oui,
le plus important.
L'aspect le plus important que Esquirol ne voit pas, ou ne veut pas voir, peut-être, c'est que, après la séance officielle, les musiciens du conservatoire interprètent des airs populaires et les femmes sont enchantées. Elles sont ravies.
Elles sont
et
ravies,
elles se lancent dans des rondes.
Ouais.
C'est-à-dire, d'une position passive, elles deviennent actives.
Active.
Et elles montrent une vitalité. Elles sont heureuses, elles sont contentes, elles dansent. Mais Esquirol est dans l'incapacité de voir que ça a des effets soignants, par adhésion. Il en est toujours à sa position de l'aliéniste, du médecin aliéniste qui sait, puis qui attend une réponse au protocole qu'il a mis en place, ce qui scientifiquement se justifie. Mais la surprise positive et bénéfique pour les personnes, il ne la voit pas, ou il ne veut pas la voir. Alors il a une conclusion, si la musique ne guérit pas, elle distrait, par conséquent elle soulage, voilà, et elle apporte des allègements à la douleur physique et morale, voilà. Voilà la conclusion d'Esquirol, qui a conçu plutôt ses rencontres avec le Conservatoire de Paris, ses séances musicales, dans une dimension strictement thérapeutique. On n'est pas dans le ludique. Sont ces femmes internées qui s'approprient la musique à un moment donné pour en faire autre chose. C'est-à-dire elles se soignent elles-mêmes en faisant des demandes de chansons populaires, d'air populaire, qui leur rappellent leur enfance, par exemple, ou leur adolescence, ou leur état de jeune adulte. Et puis, elles s'enthousiasment pour ça. Et ça, ils ne voient pas.
Du coup, ils ne voient pas aussi ce phénomène très important, d'ailleurs, où aujourd'hui, on y attache énormément d'importance, parce que, bien sûr, la place de l'individu, quel qu'il soit, va changer sous le regard dans ce champ-là. Et ils ne voient pas que, finalement, que l'important, ce n'est pas d'être présent dans le décor, mais c'est d'être dans la scénographie, c'est-à-dire c'est d'être acteur, finalement.
Oui, c'est d'être acteur.
Et ça, c'est, pour le moment, il ne peut pas l'entendre, finalement.
Oui, alors... Esquirol, réformateur de la psychiatrie aussi, oui. À mon avis, de moindre importance que Pinel. C'est lui qui a la départementalisation des asiles, c'est l'œuvre d'Esquirol. Mais il a des préjugés à l'égard des femmes. Par exemple, les romans, c'est pas bon pour les femmes, parce que ça les fait un peu divaguer, ça les emmène dans des délires. Il a des tas de préjugés.
De préjugés, oui.
À l'égard, en particulier à l'égard des femmes, ce qui en fait, il le dit comme, en tant que tel, ce qui en fait quand même un conservateur.
Voilà, et on sent bien donc aussi, quand vous évoquiez le théâtre et la présence justement du marquis de Sade, qui se retrouve également lui aussi à la Maison nationale de Charenton, après avoir été transféré de la prison de Bicêtre, etc. Et que le côté théâtral, lui, pour lui, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas acceptable, quoi, de ce fait-là.
Alors ça, de la Maison nationale de Charenton, reproduit d'une certaine manière les fêtes qu'il donnait en son château dans le sud-est de la France. C'est l'aspect festif et villageois, très intégratif, il reproduit ces fêtes. Bon, il est soumis à un régime politico-administratif sous l'Empire, Napoléon Ier, un peu strict. Il est interné, c'est un interné... oui, d'ordre administratif, c'est-à-dire on le met à l'écart de la société en raison de l'immoralité, c'est-à-dire de sa production littéraire. Ce qui est vrai, c'est qu'il a été condamné deux fois pour deux passages à l'acte, il a été jugé et condamné, c'est réglé, mais là c'est surtout l'immoralité de sa production littéraire qui le fait interner. Alors il va vivre les onze dernières années de sa vie. Et il rencontre De Coulmier, le directeur. Alors tout le monde se réfère au traitement moral à l'époque. Donc oui, voilà. Il est adepte du traitement moral. Ouais. Et puis, il sollicite le marquis de Sade pour organiser un théâtre. Il y a un théâtre à la Maison nationale, donc.
Qu'on
appelait Maison Impériale à l'époque.
Voilà, tout à fait. Ouais, puisqu'on est sous l'Empire, voilà, Napoléon Ier.
Voilà, et il va s'engager dans un travail théâtral. Alors,
oui, il va former finalement les aliénés à la pratique théâtrale.
Alors, exactement, mais il est précurseur en tout.
Oui, parce que ça, c'est intéressant aussi.
Précurseur en tout ce que l'on fait maintenant.
Voilà, exactement.
C'était déjà en place.
Ouais.
Et je pense que c'était bien mieux en place à l'époque. C'est-à-dire, il réunit sur une même selle des aliénés.
Oui.
Alors, il est choisi, quand même.
Oui, certainement, voilà. C'est pas n'importe quel aliéné non plus.
Quand on fait de la comédie, on choisit les comédiens.
Effectivement.
Quand même, les musiciens aussi.
Les musiciens aussi.
Donc, il y a des aliénés, il y a du personnel, Il y a des comédiens amateurs du coin, il y a des comédiens professionnels, c'est-à-dire tout le monde est sur la même scène,
c'est ça.
Sous la direction du marquis de Sade, et le public vient dans la ville, pas dans la ville, excusez-moi, dans la maison nationale de santé de Charenton, il y a des invitations extérieures pour venir découvrir. Alors, il y a très peu de témoignages, il y en a deux.
Oui.
Qui concerne, pour Yona 3, qui relate, on va dire, ce qui se passait à l'intérieur. Là, j'ai le témoignage devant moi, là, de Madame Flore,
oui.
qui était une grande comédienne à l'époque, qui assista à une représentation du dépit amoureux de Molière. Alors voilà ce qu'elle raconte. « Je ne pouvais pas croire que des fous fussent capables de s'exercer dans un art qui demande tant d'études et de travail, même de la part de ceux qui ont la raison. » Mais on m'a appris que cette façon de les occuper, de les distraire de leur manie, en leur faisant porter leurs idées et leur attention sur des objets amusants, était un moyen curatif employé souvent. Voilà, c'est
tout à fait.
Des effets, on va dire, pas thérapeutiques directs, mais par l'activité.
Et là, on sent bien, voilà, on traite et en même temps, du coup, on associe finalement toutes ces compétences diverses et autres avec ce regard-là aussi également.
Oui, 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 on peut le dire dans cet amour. Alors, c'est du c'est pas du théâtre adapté.
C'est, voilà,
ce
c'est
sont
ça.
Des pièces du répertoire.
On est quand même dans le répertoire. Hein.
Oui, Molière. Et puis, vous avez aussi. De ça d'être un peu opportuniste aussi.
Certainement.
Des compliments qui flattaient tel ou tel notable. Voilà, donc. Et il y avait de la musique aussi. Il y avait... alors, j'ai des éléments sur les... sur le théâtre. Les instrumentistes, je ne sais pas s'il y avait des aliénés. Mais il y avait des concerts.
C'est ça.
Qui étaient donnés. Et ça donnait une ambiance festive. Il faut savoir que la maison de santé... National de Santé de Charenton, comme toutes les maisons de santé de l'époque, c'était payant. C'était pas l'asile.
C'est ça, c'est
c'était
une
des
très
classes sociales aisées
qui pouvaient s'y rendre.
La famille de Sade payait pour, comme la famille de Camille Claudel, quand Camille Claudel était internée à la maison de santé de Vinévrard, elle était, ce qu'on dirait, dans le secteur privé aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
La maison nationale de santé, la maison nationale
de Charenton.
De Charenton, c'est du secteur privé, ce sont des gens aisés, classe sociale aisée, qui s'y rendent. Alors l'apport considérable de Sade, et il faut aller voir plutôt, il faut lire au moins, parce qu'elle n'est pas souvent montée, la pièce Mara Sade de Peter Weir, si je ne me trompe pas, qui relate cette aventure. C'est extraordinaire. Et pour la première fois, et constitue un espace théâtral non médicalisé, qui privilégie la culture, et puis tous les acteurs sont dans une même humanité, c'est le même intérêt artistique qui est partagé, il y a du plaisir, de la complicité, voilà. Et puis le théâtre a pour fonction de déconditionner des souffrances physiques, psychiques, et puis on fait face à l'ennui, mais il faut qu'il y ait un sens. On ne fait pas seulement face à l'ennui, il faut qu'il y ait un sens, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une adhésion, il faut qu'il y ait une participation. Et Sade le démontre, le théâtre de Sade à Charenton le démontre amplement.
Et en cela,
c'est une véritable réussite.
Ouais.
Et puis...
à un moment donné, une réussite qu'on a du mal à supporter, puisque du coup, quand on remonte aussi dans votre ouvrage, à un moment donné, le directeur, M. de Coulmiers, est démis de ses fonctions. À un moment donné, en 1814, Louis XVIII arrive à Paris, c'est la Restauration, et quelques mois plus tard, Sade meurt à son tour. Mais du coup... cette expérience-là avait quand même, je dirais, beaucoup titillé, finalement, de par tous ces enjeux, bien sûr de la personnalité de Sade, mais peut-être aussi de ce qu'il était en train d'essayer et de faire qu'un espèce de théâtre hors du commun se mettait aussi à exister, quelque part.
C'est surtout l'ordre moral.
L'ordre moral qui est là.
C'est l'ordre moral. Sade n'est pas quelqu'un de convenable. Donc, c'est Roy et Collard qui travaillait inlassablement pour que le théâtre s'arrête. Il a été médecin à la Maison nationale de Charenton, Royer-Collard. Il a tout fait pour que Sade soit mis en forteresse. Par exemple, il voulait qu'il soit à l'isolement. C'est-à-dire, on n'est plus dans la clinique, on n'est plus, on dirait, dans le respect des droits. C'est-à-dire, il faut se débarrasser de cet homme et l'isoler.
De toute façon.
C'est de l'ordre moral le plus conservateur qu'il soit. Et on ne regarde pas. On regarde pas ce qui se pratique, ce qui se fait.
Oui, c'est ça. On n'y accorde pas d'importance.
C'est pas le théâtre qui est en jeu.
C'est vraiment l'aspect moral.
C'est la morale. C'est la morale. C'est la morale sexuelle. Hein, c'est les rapports aux femmes. Et c'est surtout qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein, c'est l'œuvre de Sade qui est violemment.
Combattu
à l'époque. Et curieusement, quand j'ai lu les propos d'autres directeurs de la Maison nationale, ça revient régulièrement. Il y a ceux qui trouvaient que des années après, on parlait encore de ça, on le vouait à la critique d'une manière extrêmement violente.
Tellement il avait secoué l'ordre moral, effectivement.
Il indisposait très sérieusement. Voilà. Et c'est... Alors le théâtre, il fallait le fermer parce que c'était l'expression, on va dire, de cette licence. C'était... Alors que tous les témoignages que j'ai lus de l'époque montrent que c'était un lieu tout à fait vivant, intéressant. Ça reposait sur la pulsion de vie, c'est absolument indéniable. Et de fait, ça avait des effets thérapeutiques, ça, moi j'en suis convaincu. Aller mieux par le théâtre, il l'a démontré.
Alors peut-être, Gérard Bonnefond, on va continuer en retournant dans notre récit, à avancer un peu dans le temps, et peut-être on peut dire quelques mots aussi, par son angle et sa spécificité, d'un moment aussi, là où c'est plutôt l'écrit, la poétique, l'écriture, qui va être un peu en amont, avec justement Le Glaneur, ce journal, journal de Madopolis, on est là en 1865, et là, on a un journal, en tout cas, où ce n'est peut-être pas la première fois, mais en tout cas, elle est matérialisée, celle-ci, cette expérience-là, où là, on a un journal qui est réalisé par des pensionnaires d'une maison de santé. Là aussi, c'est toujours la maison impériale de Charenton. Et c'est un journaliste, peut-être aussi, Henri de Santoux, qui s'aventure aussi dans cette aventure d'écriture avec certains aliénés-là.
Alors, l'histoire du Glaneur de Madopolis, alors nous sommes bien secteur privé,
là aussi.
C'est-à-dire c'est une population très aisée. Il y a des journalistes, mais c'est des classes sociales très aisées. Donc, il y a un groupe, et c'est effectivement le premier journal.
C'est ça, hein, c'est le premier journal qui existe, voilà. Ouais.
Qui est, on dirait, en autogestion aujourd'hui.
Oui.
Où il n'y a pas, peut-être pas aujourd'hui, mais il y a quelques années. Qui a été réalisé avec une ligne éditoriale. Il y a des journalistes qui écrivent. Il est diffusé quasiment gratuitement, si ma mémoire est bonne, ou c'est quelques sous tout à fait symboliques. Il est gratuit pour les dames, je crois. Il y a quelques exemplaires qui circulent, où on parle de la vie quotidienne, et il reflète tout à fait la vie quotidienne à Charenton, en mentionnant des activités, on parle, si ma mémoire est bonne, on parle de diverses activités qui se tiennent, culturelles, qui se tiennent dans la maison de Charenton. Alors, la question qui se pose, est-ce que ça a des effets soignants ? Alors, est-ce que ça a des effets soignants ? C'est pas si évident
pas
que ça.
Pas si évident que cela.
C'est-à-dire, il y a des rédacteurs du journal de Madopolis qui sont décédés, qui allaient très très mal. Et pour il n'est pas avancé de manière aussi nette, aussi précise que pour la musique, que ça a des effets. C'est-à-dire, il y a des chroniqueurs du journal qui partaient, on va dire, dans des propos absolument insensés, des délires, comme si ça amplifiait. Ils voulaient absolument avoir le contrôle complet du journal.
C'est ça.
C'est ça n'avait pas un effet thérapeutique, sauf pour ceux qui l'ont organisé, qui y trouvaient un intérêt, et qui étaient, voilà, c'est un peu presque contradictoire. Pour certains, ça a des effets, ils occupaient leur journée, ils donnaient du sens à leur journée.
Oui, ça donnait du sens,
et effectivement. Et pour d'autres, ça... On va dire que ça accentue leurs symptômes et leur mal-être. Ils n'allaient pas mieux, au contraire. Voilà.
Donc du coup, voilà, c'était intéressant de pouvoir avoir, voilà, cette, en tout cas d'avoir connaissance de cette première initiative de cet ordre-là. Et peut-être on continue notre petit chemin et en essayant d'évoquer maintenant ce qui se passe aussi un petit peu à Bicêtre où là aussi on rencontre un autre personnage important, François Leray également, qui lui aussi va essayer de se pencher aussi un petit peu sur le côté aussi artistique. Bon, il est très critiqué hein, dans le milieu de l'aliénisme. La méthode Leray est quelque chose qui a beaucoup été controversé, en tout cas. Mais aussi, il va y avoir petit à petit... un développement aussi de la musique, du théâtre. Il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place aussi à Bicêtre.
Alors François Leray, c'est un personnage. Aujourd'hui, on dirait que c'est un comportementaliste. Il peut être pensé comme le précurseur du comportementalisme, mais c'est un petit peu plus compliqué que cela. Il a une grande idée. Il faut occuper constamment. Il faut qu'ils soient occupés, soient en activité en permanence, et c'est ça qui les soignera. Ouais. Il applique le traitement moral pinélien au pied de la lettre et d'une manière intensive.
Il veut faire reculer l'oisiveté, hein, en tout cas, faire reculer l'ignorance.
Voilà, l'oisiveté et l'ignorance fait reculer, puis c'est un militant.
Oui.
Et puis, il veut guérir. Il soigne et il veut guérir.
Et il veut guérir, absolument.
C'est sa grande entreprise. Et alors, tout est placé sous contrôle et sous ses directives. Mais il a une grande idée, c'est l'éducation générale du peuple, c'est-à-dire...
C'est ça.
Tout le monde va à l'école. La culture, tout le monde va chanter. La gymnastique, tout le monde va faire de la gymnastique.
C'est ça.
Et il développe les idées de repas conviviaux, c'est-à-dire il autorise les couteaux, il autorise... Et puis il y a des chefs de table, il veut de la convivialité. Alors bon, tout ça c'est directif. Ce n'est pas discutable.
Oui, voilà,
il n'est pas dans la demande, c'est lui qui décide.
C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être à des propositions faites à une certaine couche de la société étant accueillie dans l'hôpital, dans l'asile. Là, on va commencer à s'intéresser quand même à la masse des personnes finalement accueillies et que l'on va effectivement... auxquels on va les soumettre aussi à une organisation avec des tas de rendez-vous fixés dans la journée.
Tout à fait. Et puis, il y a le travail, bien entendu.
Et le travail, bien
sûr. Et puis, Leray organise des concerts. Il invite des choristes de l'opéra. Il a créé une chorale qui chante avec des professionnels. C'est-à-dire, il est d'une activité absolument et d'un esprit d'initiative très fort. C'est très débordant. Parmi les méthodes qui rendent perplexe, il y a l'histoire. Il avait besoin d'un musicien pour accompagner des choristes là, et puis pour éduquer par le chant aussi. Il trouvait pas. Et on lui apprend qu'un violoneux est dans l'établissement, qu'il a renoncé au violon, que ça va pas trop. Alors il va voir ce violoneux et puis il lui dit, il prend le violon et puis il demande s'il veut jouer. Il dit non, alors pas emballé l'artiste. Alors il l'emmène, pas à la balnéothérapie, mais aux douches. Et il lui dit... soit vous avez une séance de douche au jet puissant, soit vous jouez du violon. Choisissez. Alors, entre la contrainte, quand même, d'une soit d'un bain surprise, ou soit de jet intensif, il a choisi le violon, il en a bien joué, et immédiatement, il l'a envoyé accompagner le groupe de chorale, ou de personnes qui se réunissaient par la voix. Il l'a envoyé. Voilà, c'est la méthode Leray, c'est-à-dire, il obtient un résultat, c'est-à-dire, il est prêt. Mais c'est écrit dans Pinel aussi. C'est que si la persuasion, on va dire, ou si le dialogue n'est pas suffisant, pour retrouver la raison, on a la contrainte.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors le Ray, il est aussi dans cet aspect. C'est complètement contradictoire, mais aussi contradictoire que je l'énonce, ça.
Absolument.
Pas si sûr, mais il est pour l'éducation générale du peuple, ce qui est extrêmement sympathique.
Et ce qui est nouveau.
Et puis important.
Et important, effectivement.
Quand même, ces méthodes sont un petit peu contraignantes. La parole, on dirait aujourd'hui la parole du patient, la parole du malade, n'est pas pris en compte. Quoi.
Complètement. Alors, on voit aussi qu'il va chercher, je pense, hein, des événements, par exemple, culturels, là, de concerts. Le 15 août 1841, lors de la fête de l'Assomption, il invite des artistes très distingués de l'opéra et de l'opéra comique, qui sont venus mêler leur voix, là aussi, aux aliénés, et puis les encourager. Donc, avec tout ce que vous venez de dépeindre dans la manière de les mettre dans des activités, en tout cas pour les aider à persévérer sur une route, sur cette route qu'ils ont d'acquérir, de comment chanter ensemble, de découvrir aussi des choses. Et que donc, là, du coup, on y interprète Cherubini aussi également. On va aussi être quelque part, comme on dirait, on se mélange quand même au travers de cette idée, artiste professionnel, aliéné s'aventurant de manière là un petit peu obligatoire sur les champs de la musique. Et quand on pense aussi à l'Ave Maria de Cherubini, par exemple, en lien quand même quelque part avec la création de la musique qui se fait à cette époque.
Oui, tout à fait.
On retrouve des ingrédients qui, pour nous, aujourd'hui, sont des ingrédients pertinents et sur lesquels on réfléchit et on travaille, qui nous semblent effectivement extrêmement importants au regard de la personne et le fait de son inscription dans le commun qui est notre aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors après, c'est sur indication, il y a quasiment une obligation. Mmh. On mobilise beaucoup. Mais à la Maison nationale de Charenton, on ne sait pas trop comment ça de travailler. Il était peut-être très directif, hein, autoritaire.
Certes.
Comment travaillait-il l'ex-comédien ? Alors ça, moi, j'ai pas trouvé de traces.
Il n'y a pas de témoignage, effectivement.
Il n'y a pas de témoignage. Il y a des témoignages de ce qui est reçu par des spectateurs. Mais, alors des témoignages de médecins qui passent, mais comment les répétitions, on ne sait pas. Comment il dirigeait cette affaire, on ne sait pas. Le reste dévoile un petit peu plus, on peut dire, parce que lui, il explique comment il fait.
Comment il fait, voilà, c'est ça.
Voilà, c'est... Alors l'hypothèse chez Sade, on peut dire, qui fonctionne sur l'adhésion, il choisit, mais après, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Effectivement, ils sont sur un plateau, ils jouent. À l'asile de Bicêtre, on voit la méthode.
Oui, on l'aperçoit bien.
Le résultat.
On voit le résultat, effectivement.
Voilà.
Alors, on va continuer, puisqu'on évoquait là déjà une pratique, finalement, même là, si elle est un peu forcée, entre guillemets, de jouer ensemble, de faire ensemble. On peut encore un peu avancer dans l'histoire aussi des pratiques musicales, de la pratique musicale à la thérapie musicale dans les asiles au 19e siècle, l'asile en chantant, l'asile en musique, et puis peut-être évoquer un petit peu justement ces moments de pratique collective, notamment les fanfares, et je pense par exemple à la fanfare et l'éducation musicale à l'asile des Quatre-Mars près de Rouen, où là on va voir effectivement des propositions de pratiques instrumentales pour les aliénés et du coup un vrai travail de musique collective qui se met en place.
Alors, à l'asile des Quatre-Mars, c'est de l'apprentissage musical. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce 19e siècle, les fanfares, c'est très pratiqué. Toujours une minorité. Hein.
Oui.
Il y a une fanfare à Ville-Évrard, par exemple. Il y a la fanfare des enfants chez Bourneville, à Bicêtre. Les fanfares, ça se porte bien. Et puis, on est membre de la fanfare, on apprend des morceaux de musique, c'est pas de la musique adaptée. Hein.
Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, on est dans la musique qui se fait aujourd'hui.
Adapté, c'est pas de la musique adaptée. Alors on tient compte du niveau, bien sûr, mais immédiatement, on fait travailler pour qu'ils jouent, qu'on convenablement, et puis on défile dans les rues, et puis les spectateurs sont là. C'est... Alors l'Asile des Quatre Mares, je ne sais pas s'ils sont précurseurs, mais l'essentiel n'est pas là, mais on retrouve l'idée aux Quatre Mares dans un premier temps, c'était... Un gardien souhaitait que les gardiens fassent de la musique. Donc il propose une fanfare devant, on va dire, l'inconstance de ces 10 gardiens qui, pour des raisons de service ou de vie personnelle également, probablement, n'étaient pas très assidus. Donc on ouvre la fanfare aux aliénés. Et ils jouent de la musique avec des gardiens. Ils sont ensemble. Et peu à peu, leurs effectifs vont croître. Et le travail musical, c'est un travail un peu plus classique. On apprend à maîtriser l'instrument, on apprend à prendre les airs. Alors, est-ce qu'on lit les notes? Un peu, probablement.
Probablement,
on,
oui.
On fait ça à l'oreille, mais il y a un apprentissage. Le souvenir que j'ai de ce que raconte Pallas, qui a relaté la création de cette fanfare, il y a un apprentissage extrêmement serré. Et... la fanfare après défile dans les rues avec, on va dire, des pensionnaires derrière qui suivent.
Oui, on peut l'imaginer.
Et voilà, il y avait une trentaine d'instrumentistes à peu près. Et ce sont des moments très joyeux. Et puis, c'est des jours de promenade
qu'elle
était mobilisée pour accompagner les pensionnaires de l'établissement des Quatre Mares. Mais les fanfares, c'était très, 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 très pratiqué. On retrouve la fanfare des enfants... dans le service de Bourneville à Bicêtre, où la fanfare servait à accompagner la rééducation par la voix, servait à accompagner les exercices rythmiques et gymniques.
Gymnique aussi.
À quoi servait-elle la fanfare des enfants? Elle donnait des concerts pour les parents à l'intérieur, à participer à des concours, elle était présente à la remise des prix pour les infirmières. C'est-à-dire, il y avait... Alors là, on est donc complètement dans le traitement moral, mais alors Bourneville est un progressiste, on dirait que c'est un homme de gauche, très militant, très engagé, c'est un progressiste, et il pense que ce sont des activités d'éveil et de rééducation qui sont extrêmement, extrêmement importantes. C'est, Bourneville a un rôle très important parce qu'il est dans la continuité en ce qui concerne l'éducation et la rééducation des enfants. Aujourd'hui, on dirait handicapés mentaux, déficience intellectuelle. Il est dans la continuité de Itard, l'enfant sauvage, de Séguin et Bourneville, c'est-à-dire avec la méthode Itard-Séguin qu'il a mis en place pour l'éducation et la rééducation, ce qu'on appelait à l'époque des idiots, des imbéciles, des arriérés, selon les nomenclatures, qui étaient tout à fait médicales à l'époque.
Maintenant,
c'est rentré dans le sens commun. Sous un aspect péjoratif, voire insultant pour les personnes. Mais à l'époque, c'était de la clinique. Donc Bourneville met en place à la fois des activités éducatives, rééducatives, l'école, un centre d'apprentissage, et puis l'ouverture sur l'extérieur également, et puis une dimension, on va dire, artistique et culturelle tout à fait réelle. Bourneville est quelqu'un de... mon ami Claude Wajman pense que, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que c'est à l'asile de Bicêtre, dans le service des enfants de Bourneville, que l'on trouve la matrice du médico-pédagogique. Ça, c'est vrai.
Ça va être une phase très importante.
Bourneville a une place extrêmement importante sur l'éducation, la rééducation et l'attention dans un cadre institutionnel, dans une perspective soignante. Et il y a du traitement moral derrière. On retrouve Pinel avec cette idée. On éduque, on forme, on travaille, on a du temps libre, on a des relations sociales, il n'y a pas de coupure avec la famille, on est dans une dimension relationnelle avec elle.
C'est ça.
Voilà, c'est... Alors c'est... Oui, il y avait des professeurs... Et dans les autres établissements, on peut retrouver des maîtresses de chant, des classes de musique... Alors,
une dynamique vraiment très, très, très forte et très, très riche aussi dans ce domaine-là.
Alors, chez Bourneville, c'est généralisé. Chez Le Ray aussi, dans un style tout autre. Mais on pense qu'en dehors du travail, tout ce qui est en dehors du temps de travail, c'est quand même une minorité. Et depuis le début de notre discussion, on n'a pas encore...
bien sûr, mais c'est ce qui va pouvoir venir, justement.
Et c'est non sans raison, parce qu'ils arrivent après.
Voilà.
Et après.
Bien après. Et c'est pour ça que, du coup, chers auditeurs, vous aurez tout le loisir de pouvoir découvrir encore toutes ces facettes de ce voyage, puisque nous arrivons au terme de ce premier volet de cette émission autour du livre de Gérard Bonnefond, Pratique artistique et thérapie par l'art, de l'asile au médico-social, paru aux Chroniques sociales. Merci beaucoup, Gérard Bonnefond, pour ce premier volet.
Merci.
En tout cas, à très bientôt. J'étais accompagné donc par Simon Deborne à la technique et à la réalisation. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez podcaster, réécouter cette émission sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et que cette journée vous soit douce.